Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour votre heure de vie lausannoise dans ce grand direct de Radio Django. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro ce soir. Au programme, nous allons commencer avec toi Claudia, bonsoir.
Bonsoir.
Nous allons parler ensemble de protection de données numériques. Je fais référence bien sûr au récent vol de quelques 50 millions de données, excusez du peu, 50 millions de données d'utilisateurs, c'était sur Facebook.
Oui, on en parlera ce soir. On aura deux invités, c'est Cédric Jeanvret, militant pour les droits numériques, et Stéphane Corr, consultant en stratégie numérique et réseaux sociaux. On va pouvoir parler de cette tempête qui a envahi Facebook, mais on va pouvoir aussi avoir des réponses à plusieurs questions qu'on se pose aujourd'hui dans les médias. Mmh. Est-ce que Facebook est réellement une menace? Comment nous protéger et protéger nos données personnelles?
Voilà les questions. Vous prenez un papier, un stylo et puis vous êtes prêt à prendre les notes. C'est tout de suite dans quelques instants. À 18h20, ce sera la Rose des Vents. Ce sera avec toi, Anouche. Bonsoir.
Bonsoir, Fabien.
Tu es de la rédaction de Voix d'Exil et tu vas nous parler d'un projet d'accès aux études pour les migrants.
Oui, ce soir, on va parler d'initiatives proposées par l'Union des étudiants qui favorisent l'accès aux études supérieures des personnes migrantes en Suisse.
Tout ça, ce sera dans le menu de la Rose des Vents, oui. Tout à l'heure, dans une vingtaine de minutes. Et puis, dans 40 minutes, à 7h20, ce sera Cultiver Lausanne. Ségolène, bonsoir.
Bonsoir.
Nous allons parler ensemble d'art contre la violence.
Oui, alors plus exactement, en fait, l'artiste Robert Bank va venir sur nos plateaux nous parler en fait de sa musique. Donc sa musique, il la désigne comme de l'afropop, donc il nous expliquera ce que c'est. Et on le reçoit à l'occasion de la sortie de son maxi single Mon art et mon arme. Donc il nous parlera d'art mais de musique, et il nous parlera également de son parcours, de sa vision de la musique en général.
Et puis c'est un maxi single, comme ça on saura aussi ce que c'est qu'un maxi single. Voilà, comment protéger ses données sur les réseaux sociaux, l'accès aux études pour les migrants, et de l'art avec Robert Bong, c'est le programme de cette 139e édition du Grand Direct de Radio Django, à écouter sur Radio Django et sur le DAB de La Fabrique. Je suis Fabien, je vous accompagne jusqu'à 19h, bienvenue à vous dans ce Grand Direct.
Radio Django, vivre à Lausanne.
Et on ouvre cette émission avec un sujet brûlant d'actualité et cette action Delete Facebook qui, suite au scandale qui a investi la plus célèbre plateforme du monde, une campagne de désabonnement massif s'est engagée sur les réseaux sociaux. Tout a commencé après les révélations récentes de la presse anglo-saxonne selon lesquelles Facebook s'est fait piéger par ses propres données. Au cœur du scandale, la société Cambridge Analytica qui aurait récolté des informations sur les utilisateurs et utilisatrices de Facebook à leur insu dans l'objectif d'influencer la campagne présidentielle de Donald Trump aux États-Unis.
This was a major breach of trust, and I'm really sorry that this happened. You know, we have a basic responsibility to protect people's data, and if we can't do that, then we don't deserve to have the opportunity to serve people. So our responsibility now is to make sure that this doesn't happen again.
Et on en parle ce soir avec toi, Claudia.
Oui, bonjour. Alors, c'était le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, le 21 mars, a brisé le silence en s'excusant auprès de 2 milliards d'utilisateurs et utilisatrices qui ont été volés, comme plusieurs médias ont dit, de leurs données personnelles. Le patron de Facebook a promis d'améliorer la confidentialité des données des usagers et usagères, mais malgré cela, la confiance est brisée. Une campagne massive de désabonnement et différentes questions. Est-ce que Facebook est une menace? Quels sont les risques réels? Quelles données sont-elles aspirées par le réseau social avec leur autorisation ou non? Pour quel usage politique, commercial, sociétal? Comment supprimer nos données?
Ouais, toutes des questions essentielles et existentielles qu'on va aborder ce soir et dont on va pouvoir, j'espère, trouver des réponses avec nos deux invités, des experts de la région. Tout d'abord, Cédric Jeanvret, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à vous sur Radio Django. Vous êtes militant pour les droits numériques et fondateur du site internet www.etac.org. Et vous, Stéphane Corr, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes consultant en stratégie numérique et réseaux sociaux. C'est toutes des questions qui vous concernent, sur lesquelles vous vous êtes plongé, et on va en discuter ce soir.
Oui, alors on a plusieurs questions à vous poser, mais je vais commencer avec une. C'est par rapport à ce que Facebook a déclaré sur les médias au cours des derniers jours, et a déclaré d'être scandalisé d'avoir été trompé par l'entreprise anglaise Cambridge Analytica, mais est-ce que la plus grande plateforme du monde se fait réellement piéger? Comment c'est possible? Qui veut répondre?
Alors, bon, premièrement, je crois qu'il n'y a pas de données qui ont été volées, hein, ça, il faut aussi le dire, c'est un peu une exagération des médias, et c'est peut-être le problème, c'est que finalement, on n'a rien eu besoin de voler. Et je ne pense pas que Facebook soit innocent là-dedans. Je pense qu'ils sont conscients que ce qu'ils ont mis à disposition et les autorisations finalement qu'ils offrent à ceux qui créent des applications externes, donc qui sont connectées à Facebook, permettent que la situation qui est arrivée puisse arriver. Donc maintenant qu'ils ont été surpris et autres, c'est un petit peu étonnant.
Est-ce que les utilisateurs ont vraiment été volés, comme l'ont déclaré certains médias? Cédric Jeanneret?
Non, pas du tout. En fait, les utilisateurs ont juste fourni leur matériel en acceptant les conditions générales d'utilisation comme d'habitude. Et ça a juste été exploité jusqu'à, on va dire, l'extrême actuellement de ce que l'on peut faire avec Facebook. Il n'y a pas eu de vol de données, c'est juste une exploitation des données qui sont présentes. Et voilà.
Qu'on comprenne bien, réexpliquez-nous brièvement. Hein. Donc, nous, on fournit nos données à Facebook, pour n'en citer qu'un. En signant les conditions générales, eux acceptent. Enfin, nous acceptons qu'ils stockent les données, et c'est eux qui ont fourni des données à un tiers.
Tout à fait. C'est même pire que ça. On accepte que les données qu'on fournit à la plateforme exploitent ces données et les transmettent à un tiers. Donc, forcément, ces données-là sont dans la nature, sous le contrôle de la plateforme plus ou moins. Et c'était juste exploité comme ça.
Et dans le cas présent de Cambridge Analytica, c'est eux qui sont venus se servir, Stéphane Corr?
Alors. Oui, dans une certaine mesure, parce qu'il y a deux aspects. Il y a le fait que Facebook permet un accès aux données des utilisateurs sous forme de profilage pour communiquer quelque chose ou pour potentiellement vendre quelque chose. Mais ça veut dire que je peux faire une campagne sur Facebook pour essayer de faire que des gens achètent mes produits, ou je peux communiquer une information pour sensibiliser des gens sur une cause, et on va utiliser le même profilage de données. On n'a pas les données en main, mais on a la possibilité de faire que Facebook touche des personnes qu'on arrive à profiler à travers le système de données. Et puis il y a les données extérieures, celles qui sont collectées par des applications, et là on est dans le cas entre autres de Cambridge Analytica, où les applications vont permettre d'extraire beaucoup de données par rapport à ce que Facebook permet et toutes les permissions que ces applications vont solliciter auprès des utilisateurs qui, dans la grande majorité, ne les vérifient pas.
Vous parlez d'applications. Qu'est-ce qu'il y a comme exemple d'applications qui vont se servir de nos données?
Celle que Cambridge Analytica a mis en place, par exemple le test de psychologie. Il y a toutes les applications qui vous disent, mais voulez-vous vous connecter avec votre compte Facebook, par exemple.
D'accord. Donc ça, c'est les applications qui
vont
servir de
données. Voilà, si vous avez une montre Garmin, si vous êtes sur Spotify, si vous avez et que vous connectez avec votre compte Facebook, à chaque fois, on vous dit, est-ce que vous acceptez de transmettre? Et puis, normalement, il faudrait vérifier tout ce qu'on accepte de transmettre. Et là-dedans, il y a tout un faisceau de données, certaines sur lesquelles on peut agir et d'autres sur lesquelles on n'a pas de contrôle.
Mais dans les cas de Cambridge Analytica, c'est un test psychologique. Apparemment, ça devait être simplement, entre guillemets, nourrir en recherche universitaire. Et puis, toujours selon les médias et tout ce qui est sorti, c'est devenu une arme politique redoutable. Mais est-ce que c'est un cas unique? Est-ce qu'on est à l'abri en Suisse dans un cas comme celui de Cambridge Analytica?
Cas unique, c'est un peu compliqué de savoir, je pense. Après, si la Suisse est à l'abri de ce genre de choses, non. Enfin, je veux dire, ce genre de réseau, c'est international. Donc, n'importe qui peut commencer à piocher dans ses data, à piocher dans ses profils et commencer à faire des campagnes de communication quelconques, que ce soit au sein de la Suisse, que ce soit en France, que ce soit en Russie, que ce soit aux États-Unis ou n'importe où.
Et puis, il n'y a pas que Trump qui l'utilisait. Obama l'avait utilisé aussi, hein, faut pas oublier. Puis maintenant, il y a plein de gens qui sont à l'abri. C'est des gens qui sont conscients, qui ont fait l'effort d'essayer de comprendre l'environnement dans lequel ils se trouvent, de comprendre les systèmes de données avec lesquels ils collaborent. Oui, c'est des entreprises privées cotées en bourse. Elles ne sont pas altruistes. Hein. J'entends si Facebook fait 40 milliards de chiffre d'affaires, dont 20 milliards de bénéfices. C'est aussi qu'ils redistribuent, entre guillemets, 20 milliards. Ils emploient 25 000 personnes, en tout cas, fin 2017. Maintenant, il n'y a rien d'innocent. C'est une société qui est là pour faire de l'argent. Elle fait de l'argent avec nos données. Donc, leur système, c'est de prendre un maximum de nos données. Alors, clairement, on peut leur reprocher un manque de transparence sur la manière de faire, que beaucoup des démarches sont critiquables, mais il y a un certain nombre sur lesquels on peut peut agir si on prend juste le temps de parcourir les paramètres de configuration. Rien que ça. On peut faire quand même un certain nombre de choses, on ne peut pas tout faire. Mais aujourd'hui, par exemple, configurer sa confidentialité, c'est un acte d'activisme. C'est-à-dire, si tout le monde le fait, eh ben, c'est un message qui est envoyé à ces sociétés. Et on parle de Facebook, mais il n'y a pas que Facebook, Snapchat, d'autres.
WhatsApp.
Bon, ça fait WhatsApp, ça fait Instagram et Messenger font partie de Facebook, mais tous les autres, que ce soit du YouTube, que ce soit tous les autres réseaux sociaux, ont le même modèle économique derrière. Donc, faut pas le négliger. Mais même Swisscom a ce modèle économique. Swisscom, tout d'un coup, a ouvert tous les canaux de données. Ils vous prennent l'empreinte vocale, ils vous prennent les données de géolocalisation, ils vous prennent les données d'échange avec la Swisscom Box, etc. Et c'est à l'utilisateur de revenir sur ces settings pour enlever ça. Donc, c'est juste inadmissible. Alors, oui, on peut critiquer Facebook, des sociétés aux États-Unis, et puis demander que leur force juridique soit en Suisse, mais quand on ne fait rien pour les sociétés en Suisse, voilà, ça soulève quand même quelques questions.
Mais il y a aussi des lois je pose la question surtout à Cédric, des lois qui protègent la sphère privée des citoyens et citoyennes. Je pense à la loi sur la protection des données personnelles. Donc, cette loi, mais déjà, si on peut en parler un petit peu plus, et puis, quel est le lien entre cette loi et le cas de Facebook aussi?
Le problème de la loi en Suisse, c'est qu'elle est en Suisse. Donc, forcément, quand on est une société étrangère qui exploite des données de Suisse, il y a tout un processus juridique qu'il faut mettre en place pour commencer à aller passer par l'Irlande pour Facebook, et ensuite, potentiellement, qu'est la Californie, toujours pour Facebook. C'est assez long. La Suisse se gargarise depuis des années du fait qu'on ait une des meilleures lois pour la protection des données, mais en fait, d'ici le mois de mai, ça sera totalement faux. On sera moins protégé qu'un Français ou qu'un Roumain. Donc, au final, la Suisse est totalement en retard là-dessus.
Qu'est-ce qui va changer au mois de mai ?
Au niveau européen, il y a une loi, je ne sais plus maintenant l'acronyme.
RGPD, la loi globale européenne sur la protection des données. En fait.
Voilà, merci Stéphane.
Règlement européen, pardon.
Qui va corriger pour les Européens et pas pour les Suisses?
Exactement, parce qu'on n'est pas dans l'Union européenne. Donc la Suisse va un peu, je pense, adapter sa loi. Il y a la révision de la loi sur la protection des données qui se fait en août. L'application, on ne sait pas. Voilà. Donc autant pour le fort des données personnelles en Suisse, on en est très, très, très loin.
Mais dans quel sens nos droits en tant qu'utilisateur, utilisatrice? Il y a des responsabilités, mais je pense qu'il y a aussi des droits en Suisse ou à niveau européen.
Oui, il y a des droits, bien sûr. On peut lancer des procédures, mais comme dit, il faut passer par des procédures à l'étranger. Et en tant que citoyen suisse, on va dire que c'est un peu compliqué.
Non, mais il y a une volonté politique de ne pas protéger correctement les données, c'est clair. Quand vous voyez que la CNIL, donc l'organisme de protection des données en France, il y a à peu près 200 personnes qui bossent là-bas. En Suisse, on a une équipe qui fait ce qu'elle peut faire, mais qui est extrêmement réduite. Donc, si vous voulez pas, c'est un peu comme le contrôle, je sais pas, sur le travail au noir et tout ça. Mettez peu d'inspecteurs et puis vous aurez peu de contrôle malgré les lois qui sont en cours. Donc, finalement, si on met peu de ressources humaines au niveau du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, eh ben, on n'arrivera pas à protéger les données. Et puis, c'est un peu une volonté derrière parce qu'on est toujours dans le principe, ouais, on ne va pas embêter les entreprises. Alors qu'aujourd'hui, c'est un vrai outil de communication de protéger les données personnelles.
Stéphane Corr, il faudrait, selon vous, augmenter cette équipe de personnes qui contrôle, qui vérifie, qui est là pour nous, pour aider les Suisses?
Oui, pas seulement qui contrôle, qui vérifie, qui met à disposition aussi du citoyen des éléments de compréhension pour l'aider, l'accompagner, parce qu'on ne peut pas aller en arrière. Le delay de Facebook, c'est un peu stupide, très sincèrement. Alors, ça n'a peut-être pas pris en Suisse non plus, mais à quoi ça sert? J'entends, il faut se dilater soi-même de la société, parce qu'on est dans une société qui est de plus en plus dématérialisée, qui est de plus en plus basée sur les données. Il n'y a pas que Facebook, mais il y a toutes les données, celles de l'Internet des objets, celles qui vont être bientôt de la domotique, celles qui sont bientôt des voitures connectées. J'entends, on ne pourra plus passer à côté de la donnée. Donc, autant que le citoyen prenne ses responsabilités, qu'on puisse aussi lui donner les moyens de les prendre, c'est-à-dire qu'il puisse s'éduquer et devenir un citoyen conscient et un citoyen qui décide.
Un citoyen qui décide, voilà, c'est un petit peu la thématique qu'on aborde ce soir dans cette rubrique Vivre à Lausanne. Voici un extrait de nos confrères de Vertigo de la RTS, c'était hier.
À partir de 70 pages likées sur Facebook, il y a 95% de chances que l'entreprise Cambridge Analytica devine votre couleur de peau. 85% de chances qu'elle devine votre orientation sexuelle. À partir de 150 pages likées, elle estime mieux vous connaître que vos enfants. À partir de 300 pages likées, elle estime mieux vous connaître que votre conjoint.
Voici un extrait de Vertigo de la radio-télévision suisse diffusé hier. Donc on le constate, après un certain nombre de likes, on peut entrer dans nos vies privées, mais comment est-ce qu'on peut se protéger de cela ?
Et puis, et parce qu'on livre si facilement nos données personnelles sur les réseaux sociaux, mon sport préféré, le nom de mes amis, les photos. Tandis que si on a un inconnu qui va frapper à notre porte, on lui fait la porte au nez, quoi. Si on lui demande des choses qui concernent notre vie privée. Pourquoi ?
Mais je crois que les démarches sont des fois assez simples, parce que ce soit, je pense, pour Cédric ou moi, l'idée est de dire qu'on met en ligne que des choses qu'on peut assumer publiquement. Bon, les réseaux sociaux sont finalement une représentation publique de nous. On n'a pas nécessairement besoin d'y mettre sa vie privée. On a des messages privés, on a des systèmes messagerie pour échanger des trucs privés qui fonctionnent très bien. On n'a pas besoin de tout mettre en ligne non plus. Maintenant, on peut aussi gérer des paramètres de confidentialité. Par exemple, alors moi, je fais des démonstrations dans mes cours, des fois dans des écoles, pour montrer avec quelques likes comment je peux influencer le comportement de quelqu'un ou le choix final de quelqu'un. Alors, Facebook me permet, avec son moteur de recherche interne, d'identifier, par exemple, les femmes célibataires qui vivent à Genève et qui aiment aller au restaurant. Voilà, je fais cette identification. Je choisis ma cible et puis je regarde ses intérêts. Alors, dans mon exemple, elle aime la lingerie d'Aubade, les produits de l'Occitane, elle aime aussi les macarons de la durée, elle cherche peut-être un appart, elle est allée à Brighton et puis elle va de temps en temps aux terrasses de Genève. OK, qu'est-ce que je fais avec ça ? Je vais aller chercher des images de Brighton sur Google que je vais mettre dans mon téléphone, les endroits branchés sur TripAdvisor. Ensuite, je vais aller à la durée, acheter quelques macarons et puis je vais aller aux terrasses de Genève. On va se rencontrer, je vais lui offrir des macarons qu'elle va manger forcément et on va discuter comme ça. Puis je vais lui dire, ah, je reviens de Brighton. Elle va me dire, ah, mais moi aussi, j'y suis allé. Puis je vais montrer toutes les belles photos que j'ai prises là-bas, etc. De fil en aiguille, on va découvrir toute cette alchimie incroyable entre nous, basée sur cette rencontre subite et imprévue. Et voilà. Mais tout ça, après, je montre que simplement, on peut gérer les paramètres de confidentialité de ces likes sur Facebook. On peut les restreindre en termes d'audience. Si on le fait, tout ça est impossible à faire. C'est juste une responsabilité de l'utilisateur. C'est pas plus compliqué que ça. Et il y a plein de gens, comme Cédric à travers son site ou à travers ses différentes actions, qui aident l'utilisateur à quelque part mieux comprendre ses environnements. Il y a des vulgarisateurs, il y a des gens qui vont donner de leur temps, de leur énergie, sans être forcément payés en retour, toujours, pour faire un certain nombre de choses et les aider quelque part à mieux comprendre ces environnements.
Et puis je reprends sur un slogan de l'entreprise Cambridge Analytica. Les données sont le moteur de tout ce que nous faisons. Mais pour éviter que telle entreprise utilise nos données personnelles à notre insu, est-ce qu'effacer notre compte Facebook est suffisant et pas suffisant ? Est-ce que les données restent vraiment dans le réseau pendant combien de temps ? Qu'est-ce qu'on fait ?
Ça sert à rien en fait de vouloir effacer ces données parce que, ok, peut-être qu'elles seront effacées de Facebook après un certain temps quand même. Ils sont obligés de le faire. Mais les données sont toujours exploitées quelque part. Il y aura toujours peut-être un Cambridge Analytica quelconque qui aura toujours ces données-là parce qu'ils ne sont pas liés à Facebook, donc ils n'ont pas l'obligation de savoir que vous avez effacé votre compte. Non, ce qu'il faut faire, c'est voir le problème à la racine. Est-ce que je publie ? Est-ce que j'en ai vraiment besoin de publier ça ? Est-ce que c'est un besoin impérieux ? Est-ce que ça apporte quelque chose, en fait, au réseau social et à mes proches ? Est-ce que c'est vraiment important que je publie ça de manière publique ou bien est-ce que je peux plutôt passer par un truc plus confidentiel ? On parle de WhatsApp, on parle de Threema, on parle de Telegram potentiellement. Enfin, il y a plein de vecteurs de communication qui existent et chacun est adapté à un type de contenu. Donc voilà. Après, si on ne veut pas se faire profiler de manière précise sur Facebook, bonne chance pour commencer, mais juste réfléchir à ce qu'on publie, c'est tout.
Mais il n'y a peut-être pas toutes les personnes, je pense aussi aux adolescents, adolescentes, ils ne sont pas assez responsabilisés, éduqués. On voit que voilà, il y a beaucoup d'informations qui sont mises sur le net. On voit aussi des gamins aussi à Neuve, disons, ils ont leur canal YouTube, et puis ils ne savent pas qu'il y a un canal privé, on parle d'éducation, non, mais qu'est-ce qu'on peut faire ?
J'entends, il faut faire attention que les réseaux sociaux ne créent pas une sorte de nuage de fumée qui nous évite de voir des problèmes qui sont aussi à notre porte. Quand vous êtes avec des cartes fidélité, vous créez les mêmes systèmes que Facebook, quelque part, sur le comportement, le profilage. Moi, je suis annonceur, je peux accéder à ces données de la même manière que pour Facebook. On ne va pas me donner les données, mais on va envoyer le mailing aux gens que j'aurais ciblés par mon profilage. Donc, c'est à peu près la même chose. Des systèmes de paiement électronique, ce qu'on appelle la monnaie plastique, les jeunes aujourd'hui payent sans arrêt avec ça. Alors, quand je paye avec une carte, je dis qui je suis, où je suis, à quelle heure j'y suis, est-ce que j'achète. Quand je paye avec du cash, je dis rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a tout ça, il y a tous ces systèmes. Quand on vous offre du Wi-Fi dans un grand magasin, ben des fois, parce qu'on met des petits points d'accès qui sont très peu puissants, puis chaque fois que vous déplacez de quelques mètres, ben vous allez changer de point d'accès. Et on va vous tracer grâce à ça dans le magasin. Donc, il y a plein d'éléments qui sont aussi dans notre quotidien, auxquels il faut penser. Donc, l'éducation, c'est vraiment l'élément clé. Et le problème, c'est que, voilà, comme le politique, lui, n'est pas éduqué, il est difficile qu'il comprenne le besoin en éducation. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors moi, je n'ai pas langue de bois, donc je suis désolé. Je ne suis pas politique non plus, donc je peux le dire.
Ce n'est pas très réjouissant ce que vous nous dites là, Stéphane Gore. Comment est-ce qu'on peut faire concrètement alors pour ne pas se faire pister, ne pas se faire tracer, que ce soit dans les centres commerciaux, dans les magasins, les cartes de fidélité ou sur Facebook, hein, comme on en parle aujourd'hui ?
Comme je l'ai dit avant, il y a quand même plein d'acteurs autour qui essayent de faire un travail de vulgarisation, qui essayent de mettre à disposition ou de combler le vide qui est laissé par le politique, par l'instruction publique à un certain niveau. Donc je parle de l'autorité politique, pas des enseignants ni des directeurs d'école qui essayent de faire ce qu'ils peuvent. Mais voilà, comme Cédric vulgarise à travers son site ou informe ou amène des alertes, moi j'essaie de le faire à travers des fois mon compte YouTube où je vais faire des petits tutos, donc des petits guides pour justement comment gérer les données d'application ou des choses comme ça sur Facebook. Et on n'est pas seul, il y a plein de gens qui vont donner de leur temps, faire des choses comme ça pour de nouveau créer ce trait d'union.
Mais encore faut-il que les gens aillent chercher et que les gens fassent le pas de le faire.
Ben voilà, j'entends, on ne peut pas toujours être le chien de Pavlov, on doit des fois un petit peu s'éveiller. Non, on a une responsabilité, c'est important pour les futures générations, parce que soit on est contrôlé par nos données, soit on prend le contrôle sur les données. Ça sera un choix qui est un choix stratégique de société, un choix stratégique de citoyen, de liberté.
Voilà, la liberté, c'est une question qui est passablement vaste. On a commencé à aborder un petit peu ce soir cette question-là sur suite au scandale Delete Facebook, enfin scandale entre guillemets, hein, qui est l'action actuellement en cours pour se retirer de Facebook. Mais les données personnelles, on l'a compris, c'est toujours délicat. Et le conseil qu'on peut vous donner ce soir, c'est d'aller investir quelques minutes pour vos conditions personnelles, vos conditions de partage. C'est en tout cas votre conseil, Stéphane Corr. Merci beaucoup.
Merci
une,
à vous.
Une très bonne soirée à vous. Je rappelle que vous êtes consultant en stratégie numérique et en réseaux sociaux. Également, merci à vous, Cédric Jeanneret.
Mais de rien.
Et une très bonne soirée. Vous êtes militant pour les droits numériques et fondateur du site internet www.etac.org. Une bonne soirée à vous.
Bonne soirée.
Et merci à Claudia pour la préparation de ce sujet.
Merci, au revoir. Bonne soirée.
Un sujet que vous pouvez retrouver sur notre site www.django.fm. Marriage Man avec cette chanson Hypnosis sur Radio Django et Radio La Fabrique, bien sûr.
Radio Django, la rose des vents.
Une précision redoutable ce soir puisqu'il est 18h30 précise et nous passons à la Rose des Vents avec Anouche, rédactrice à Voix d'Exil. Bonsoir.
Bonsoir Fabien.
Tu nous proposes ce soir de parler d'un nouveau projet mené par l'Union des étudiants suisses, l'UNES, qui a pour but de favoriser l'accès aux études pour les migrants.
L'Union des étudiants de Suisse, qui regroupe les associations d'étudiants des hautes écoles universitaires spécialisées et pédagogiques, a lancé en décembre 2015 un projet qui porte le nom de Perspectives études. Le principal but de ce projet est de faciliter l'accès des migrants aux hautes écoles suisses en améliorant leurs ressources en information. C'est ainsi que le 21 février de cette année, l'UNES a lancé le site perspectivesetudes.ch en allemand. Ce site aide les migrants dans leur démarche d'inscription et d'immatriculation aux hautes écoles suisses.
C'est un grand projet. En plus de l'accès aux hautes écoles, il a pour objectif, qu'est-ce qu'il a comme autre objectif, ce projet, Anouche ?
Ce projet vise aussi à accompagner, orienter et soutenir les étudiants réfugiés dans la création de projets durables. Et pour expliquer toute la démarche en détail, une prise de position intitulée « Accès aux hautes écoles pour les réfugiés étudiants » a été publiée en français et en allemand.
Et pour en parler ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Julia Stanchieri. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur Radio Django. Vous êtes assistante du projet Perspectives études. Soyez la bienvenue sur Radio Django.
Merci.
Comment a émergé ce projet au sein de l'UNES ?
Alors tout d'abord, on a réalisé qu'en Suisse, l'intégration, ça passe principalement par l'accès au marché du travail. Et du coup, les autorités essayent d'insérer les gens plutôt sur le marché du travail au lieu de continuer à les former ou de les former nouvellement dans une nouvelle branche. On a aussi remarqué qu'il y avait un manque d'informations important quant au passé en fait, des personnes migrantes. On ne leur pose pas la question des études qu'ils ont menées, des langues qu'ils ont apprises. Et aussi, il y a un manque d'informations sur les sites internet des universités elles-mêmes et des hautes écoles de comment s'inscrire lorsqu'on n'a pas un permis de séjour d'établissement ou la nationalité suisse. Souvent, ces informations sont difficiles à trouver, donc c'est ce qu'on a voulu mettre en avant pour que les gens fassent les démarches rapidement. Voilà.
Et quelles sont les principales difficultés que rencontrent les migrants dans l'accès aux études supérieures ?
Je dirais premièrement la langue, parce que les personnes réfugiées qui ont un permis F ou un permis B, ou alors les demandeurs d'asile, on les regroupe dans les cantons sans tenir compte du passé qu'ils ont. Donc peut-être qu'ils auront appris le français dans leur jeunesse, mais ils vont être placés dans un canton suisse-allemand. Donc en fait, on va les traiter comme des personnes venant d'un pays tiers et ils vont devoir respecter les conditions de langue. Donc ils devront avoir un niveau C1, comme une personne brésilienne ou une personne américaine. Et ce qui n'est pas forcément possible pour eux parce que les cours de langue sont chers. Ils devront en plus passer des tests d'équivalence qui sont chers également aussi. Donc c'est la première difficulté. Ensuite, c'est principalement le manque d'informations et de coordination entre les autorités qui ne savent pas non plus quelles sont ces conditions et comment y accéder.
Okay. Est-ce que le fait de poursuivre des études supérieures en Suisse durant une procédure d'asile peut avoir une influence sur la procédure d'asile ? Il y a certaines garanties pour pouvoir terminer, rester et continuer ses études et aller jusqu'à la fin, par exemple ?
Je ne pense pas qu'il y ait une garantie pour rester en Suisse, étant donné que la procédure d'asile se base sur la vraisemblance des motifs de persécution. Mais ce n'est pas non plus un frein à la procédure. Ça ne veut pas dire que vous étudiez qu'on va vous dire « Ah non, maintenant, vous partez », à moins que vous avez menti aux autorités. Enfin, de toute façon, il ne faudrait pas faire dans n'importe quelle procédure d'asile, qu'on étudie ou pas. Mais ça ne garantit pas non plus le fait de rester, étant donné qu'il faut avoir un motif de persécution.
Donc, théoriquement, on pourrait commencer des études et puis s'arrêter là, puisqu'on pourrait devoir quitter le territoire.
Malheureusement, oui, c'est déjà arrivé à certains de nos étudiants qui avaient commencé depuis plusieurs années et qui ont reçu des décisions négatives, qui essayent de trouver d'autres solutions pour rester, étant donné qu'ils avaient déjà commencé des études, mais malheureusement, c'est possible.
Et n'existe pas en Suisse un permis spécial pour les étudiants, ça ?
Alors oui, mais normalement, il faut, si je me souviens bien, les visas étudiants, il faut d'abord être admis à l'université, il faut avoir des moyens de subsistance. suffisant. Et si vous êtes bénéficiaire de l'aide sociale, et bien en général, il ne faut justement pas être bénéficiaire de l'aide sociale pour avoir ce visa. Donc, il faudrait plutôt trouver un emploi à côté pour avoir ce visa.
Et dans votre prise de position, vous mentionnez la nécessité de clarifier le plus tôt possible le potentiel des réfugiés dans le processus d'asile. Et qu'est-ce que vous entendez par là ?
C'est justement un peu ce qu'on a dit au début et ce qu'on a discuté avant.
Oui, pour.
C'est le fait que pendant la procédure d'asile, on devrait demander aux personnes quel est leur passé et quelle langue ils ont appris afin de leur donner les meilleures chances pour se former et s'intégrer rapidement.
Et votre site internet, on va parler un peu de site internet qui actuellement est seulement en allemand. Quand est-ce que l'information sera disponible en français ou en autre langue ?
Alors, on vient de terminer la mise à jour en allemand parce qu'on a un petit effectif de deux personnes. Et la traduction va partir, les textes vont partir à la traduction cette semaine. Donc, dans quelques semaines, ils devraient être en français et en anglais. Et ensuite, on réfléchit aussi à le faire traduire peut-être en arabe et farsi. Mais il va falloir trouver les personnes qui peuvent traduire depuis l'allemand.
Vous choisissez justement des langues où il y a du public cible, entre guillemets, des gens qui pourraient être intéressés par le processus d'études ?
Oui, je n'ai pas les chiffres exactement avec moi sous les yeux, mais les personnes qui sont principalement les mieux formées dans les personnes réfugiées sont souvent des Syriens ou des Irakiens ou des Afghans. Du coup, on a principalement choisi ces langues. Mais voilà, il va falloir trouver quelqu'un qui peut le faire depuis l'allemand ou le français. Donc, encore à voir.
Et il y a des bénévoles qui travaillent. Ce sont des bénévoles, des conseillers qui sont, en fait, qui travaillent avec les migrants. Ce sont des bénévoles.
Alors, ils ne travaillent pas directement avec nous. Ils travaillent dans les universités. Mais oui, ce sont tous des étudiants bénévoles.
Et comment comptez-vous faire connaître votre site internet au public que vous visez ?
Alors, on a une campagne qui n'est pas encore partie parce que le site n'est pas encore traduit, mais on a une campagne de cartes postales qui va être envoyée dans les différentes associations et puis les médias et les autorités qui pourraient être touchées, l'orientation professionnelle afin de faire connaître, mais aussi principalement les associations qui travaillent avec les migrants et qui peuvent les soutenir dans ces démarches.
Et est-ce qu'il y a déjà des utilisateurs du site qui ont bénéficié des projets, de votre projet ?
Alors, du site, je ne sais pas, mais des projets locaux dans les universités, on a environ 150 à 200 personnes qui font des programmes de mentorat dans les universités suisses.
Bon, ben non, on va profiter de vous le rappeler aussi, ce site, hein, si vous nous écoutez ce soir pardon, et que vous êtes intéressé. Perspective au pluriel -études au pluriel aussi, .ch, comme ça vous l'avez actuellement en allemand. Et on l'a compris, il va arriver en français tout bientôt et puis dans d'autres langues diverses et variées, dans un proche avenir aussi. Merci beaucoup, Julia Stanchieri.
Merci à vous.
Plein succès pour votre projet. On rappelle le nom Perspective Études, le projet pour ouvrir les études à diverses personnes migrantes. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce soir. Et on remercie également Anouche qui a préparé ce sujet. On rappelle que tu es rédactrice à Voix d'Exil, le média d'information destiné à l'expression libre des personnes migrantes en Suisse et ailleurs. Un sujet que vous pouvez retrouver bien sûr sur votre site www.voixdexil.ch et puis sur le nôtre www.django.fm.
Visit my world. Come here and visit my world. Did history shining stars? Our love is the only way. Don't get lost, cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. Dance with me one more time. You and me is more than 100 miles. You and me is more than red sky. You and me is more than lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. Come here and visit my world. Did history shining stars? Our love is the only way. Don't get lost, cause I'm waiting. summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than lonely days. It's our time to go to dance with me one more time.
One more time. 100 Miles, c'est Gabriella Richardson en duo avec Jarl sur Radio Django. 18h40, on enchaîne avec la rubrique Culture.
Radio Django, Culture.
Bonsoir Ségolène.
Bonsoir Fabien.
Dans la rubrique Cultiver Lausanne, ce soir, nous avons le privilège de recevoir sur le plateau de Radio Django l'auteur, compositeur et interprète Robert Bong. Bonsoir d'ailleurs.
Bonsoir Fabien.
Bienvenue chez nous.
Merci.
Oui, bonsoir Robert Bong, merci bonsoir, d'être voilà. Parmi nous.
Merci.
Alors, en effet Fabien, tu parles de privilège, car il me semble Robert que c'est la toute première fois que tu t'exprimes dans un média roman, c'est bien ça?
Oui.
Ok. Donc, on a de la chance.
Ouais.
Donc, ce soir, tu nous présentes Mon art et mon arme, un maxi-single sorti il y a à peu près un mois.
Le 16 février.
Le 16 février, un peu plus, qui est composé de 3 titres, Colombo, Yaka Yaka et Où es-tu ma belle.
Ouais. Donc, alors si je comprends bien, un maxi-single, c'est 3 titres.
3 titres, oui.
Wow.
C'est ça. Donc, c'est ton tout premier single, mais... On peut dire que tu as quand même de la bouteille parce que tu as commencé très tôt la guitare. À 14 ans, tu es rentré dans une école de musique à Kinshasa, au Congo.
Ouais.
Quelques années plus tard, tu as effectué des tournées professionnelles au Congo et au Kenya.
Ouais.
Mais tu as surtout côtoyé le mythique Papa Wemba, le roi de la rumba congolaise.
Oui, c'est notre icône. Moi, je suis parmi les jeunes qui ont eu la chance de vivre Papa Wemba live, quoi. Comment il prodiguait des conseils, comment il dirigeait son orchestre, vraiment, c'était une grande personne, quoi.
Racontez-nous, comment ça se passe?
Comment?
Comment ça se présente, comment c'est quand Papa Wemba est sur scène?
Bon, Papa Wemba d'abord, c'est un artiste. Et...
Oui, il faut le présenter pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément.
Il était une personne qui était d'abord fan des bons artistes. Chez lui, si tu travailles bien, tu es un très bon artiste, il sera fan de toi. Et puis, il encourageait toujours les jeunes qui avaient cette envie-là de faire la musique. Comme moi, comme on dit chez nous, les Ngembo, donc chauve-souris. Moi, je courais derrière les artistes de vivre la musique. C'est par là que j'ai eu cette chance de participer même dans les répétitions en coulisses, comment ils préparaient leurs albums. Donc, c'est quelque chose pour moi, c'est bénéfique pour moi, parce que ça reste dans ma tête. Donc, je suis en train de construire ma vie artistique, ma carrière avec tout ce que j'ai. Appris.
Tu étais guitariste à ce moment-là?
J'étais guitariste, mais pas vraiment un guitariste professionnel, quoi.
D'accord.
J'ai suivi les artistes, par exemple, voir comment ils travaillent, leur mode de travail, comment devenir un bon guitariste. Tu vois, ça, pour devenir un artiste, tu dois côtoyer les artistes, voir, et puis travailler, en écoutant ce qu'on te dit.
D'accord. Et donc, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours professionnel. Donc, tu as fait cette école de musique à Kinshasa.
Ouais.
Voilà. Et puis après, donc, tu as commencé à suivre certains artistes.
Bon, l'art, d'abord, pour moi, la musique, c'est un travail qui demande plus l'autonomie.
D'accord.
Beaucoup de travail personnel?
Beaucoup de travail personnel. Il faut beaucoup réfléchir. Il faut être vraiment à fond de toi parce que les artistes présentent... C'est que c'est lui-même l'artiste, ses émotions, ses passés, ses vécus, ça fait partie de l'art. Tu Tu vois, comme moi, je suis guitariste. Robert Bon, guitariste qui accompagnait les artistes. Au fil du temps, j'ai travaillé plein de choses, j'ai vécu beaucoup de choses. Il y a des moments où j'étais déprimé. Souvent, il y a des chansons que j'écoute, ça me fait du bien. Alors je me disais, mais je suis guitariste, pourquoi pas, je peux essayer de chanter, en même temps jouer ces chansons, ou les écouter. Alors c'était difficile pour moi, mais tellement que c'est la passion, je me suis lancé à fond pour me découvrir et pour faire découvrir qui suis-je.
D'accord. Et puis après, tu es parti au Kenya.
Je suis parti au Kenya, j'ai vécu au Kenya 10 ans.
10 ans.
C'est là où vraiment j'ai réussi ma révélation.
D'accord. Et là, tu faisais des petites scènes ?
Non, là, j'étais guitariste.
C'était guitariste, mais...
Guitariste, et j'ai joué dans des boîtes de nuit.
Voilà.
La musique d'interprétation. Mm-hmm. Mais pour moi, ça ne me suffisait pas, parce que je me disais, jouer, interpréter des chansons que d'autres artistes ont fait, c'est bien bon, mais c'est pour l'air bien. Pour moi, le bien de travailler, de comprendre, d'apprendre cette maturité musicale. Mais pour construire ma vie, avec ça, je ne peux pas. Je dois écrire. Je dois travailler, faire plus tard une carrière professionnelle comme tous autres artistes le font.
D'accord. Je pense que tu as dû rencontrer énormément d'artistes durant ta carrière, que ce soit au Congo ou au Kenya.
Partout où j'ai passé dans le pays, j'ai eu cette chance de rencontrer des artistes.
Ils ont eu des influences sur ta manière de concevoir la musique ?
Rien du tout.
Non ?
Rien du tout. Moi, j'étais là. La musique, l'art, d'abord, quand je parle, d'abord, là, on va arriver... Au moment que je vais expliquer mon titre, la musique, c'est quelque chose qui explose dans moi. Personne ne peut arriver à comprendre ça ou à sentir ça, de sentir ça. Parce que je peux te le dire, ah, Ségolène, il fait bien, je t'envie, tout machin, mais ça traîne que dans moi. C'est à moi maintenant de travailler pour arriver à faire comme Ségolène. Qu'est-ce qu'il faut ? Je dois travailler. Je dois suivre vraiment ce processus parce que dans l'art, il n'y a pas de shortcut, il n'y a pas la correction. Il faut aller droit au beat pour atteindre le sommet.
Robert Bon, on parle de votre carrière ce soir sur Radio Django. On parle également de votre maxi-single « Mon art et mon art », mais vous nous l'avez apporté. On vous propose d'abord d'écouter un premier extrait de la chanson « Colombo » qui se trouve sur votre disque. On en parle quelques mots, vous nous dites quelques mots dans quelques instants.
Merci.
Robert Bong, que signifie Colombo, Colombo, qui est le titre de cette chanson ?
Colombo, c'est une inspiration. Je t'ai inspiré parce que l'inspiration, on s'inspire de ce qu'on a et puis de notre environnement. Et moi, dans notre village, il y avait un monsieur là, un monsieur. Au lieu de dire Molo Molo, pour lui, il disait Colombo. Alors ça me faisait rire. Pour moi, c'est quelque chose qui est resté dans ma tête. Parce que la musique, ça demande un petit peu une partie comique, quoi, pour faire bien passer le message. Alors, une fois, j'étais là, il y a un ami qui me disait, « Ah, mon gars, on doit bosser, mais Molo Molo. » Alors, moi, ça m'a inspiré, Molo Molo. Ah, il y avait un vieux dans mon village qui disait, « Molo Molo Colombo. » Alors, je vais jouer avec ça pour bien passer mon message. Et j'ai intitulé la chanson « Colombo ». J'ai essayé de développer juste un Molo Molo.
Et justement, le message que tu veux faire passer à travers cette musique, c'est lequel ? Enfin, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ce morceau, Colombo, Colombo ?
Pour moi, la musique, pour passer le message, je dis toujours, tous les métiers sont égaux par ailleurs. Mais Colombo, Molo, Molo, cela veut dire toute chose dans la vie, si tu veux réussir, il faut aller Molo, Molo, pas à pas. Donc, tu ne peux pas commencer Donc, il faut commencer à 0, 1 pour arriver à 10.
Il faut passer, donc, sauter les étapes.
Mollo. Ouais. Il faut travailler, il faut se donner à fond avec un maximum de patience.
D'accord. Donc là, tu parles un peu de ce que toi, tu as vécu, ce que tu as vécu à travers ta carrière professionnelle.
Non, plus là, je parle par rapport aux jeunes.
D'accord.
Nous, les jeunes.
D'accord.
Aujourd'hui, par rapport à la technologie, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'avoir de belles voitures, de belles maisons. C'est bien bon. C'est le matériel. C'est pour si tu bosses, tu peux l'en avoir. Mm-hmm. Mais il faut aller mollo, pas à pas. Il faut travailler. C'est dans le travail que tu peux produire tout. Tout est possible à celui qui travaille et qui croit. Comme les chrétiens, mm-hmm. tant que moi aussi chrétien, on dit tout est possible à celui qui croit. Mais pour moi, j'ai compris que tout est possible à celui qui travaille et qui croit en quelque chose.
D'accord. Là, on a entendu un court extrait de Colombo, mais donc tu chantes aussi bien en swahili, lingala, qu'en français ou en anglais.
Ouais.
Et tu appelles ce doux mélange, en fait, donc ton style s'appelle afropop.
Ouais.
Donc, lors de la composition de tes chansons, est-ce qu'il y a une langue qui s'y prête mieux, par exemple pour un refrain, pour un couplet? En fait, est-ce que pour toi, il y a une règle pour faire coexister ces différentes sonorités, ces différentes langues?
L'inspiration, quelque part, l'inspiration, moi j'ai dit l'inspiration des fois, l'inspiration est con.
Il n'y a pas de règle, donc ça te vient
si
comme ça.
Ouais. Si tu as la chance de vivre avec des artistes, tu vas arriver aussi à voir en quel moment, quand l'inspiration vient auprès d'un artiste, comment il se déchaîne pour mm-hmm. repérer son inspiration. Donc cela veut dire qu'on s'inspire de ce qu'on a et puis de notre environnement. Moi, je parle lingala, qui est ma langue maternelle, français, un petit peu l'anglais, swahili, avec d'autres langues aussi. Il y a aussi plusieurs diversités de langues. J'aime bien combiner quoi, dans mes chansons. Mm-hmm. Parce que j'ai compris que chaque langue a sa mélodie, a sa propre mélodie spéciale.
D'accord.
Et puis si j'emmène, je transpose ça en musique, cela veut dire que chaque langue a aussi ses gammes, quoi, a ses notes. Parce que la musique, c'est quelque chose, on cherche toujours de repérer des notes spéciales, quoi. Tu sens que ça, quand je chante ou je touche ces notes, et puis ça peut toucher le cœur. Parce que le but des artistes, il faut chanter, faire ta musique. La première des choses, ça doit toucher le cœur.
Pour toi, c'est important vraiment d'avoir ce mélange de langues et pas de chanter tout un morceau en français ou tout un morceau en lingala.
Non, je
toi,
le fais.
Toi, c'est important d'avoir vraiment un mix au sein d'un morceau de plusieurs langues.
On s'inspire de ce qu'on a et de notre environnement.
D'accord.
Moi, je parle un petit peu swahili, français, lingala, anglais, tout ça. Mais je connais ça. C'est ce que j'ai. Pour m'inspirer, je dois aussi l'exploiter ça dans l'art, de ce que je fais, mm-hmm. de ma connaissance. Je dois profiter de ça.
D'accord. En parlant d'inspiration, je sais, Robert, que pour trouver l'inspiration, parfois, tu vas un peu dans la nature.
Moi, j'adore la nature. Et j'adore vivre dans la nature.
Et ça t'aide à composer des morceaux, le fait d'entendre certains sons, je ne sais pas, le vent, les oiseaux et tout ça, ça t'inspire, c'est ça?
Moi, j'adore la nature parce que quand je suis là où il y a vraiment du calme, je me sens détendu. Et puis les battements de mon cœur, vraiment, mon cœur, je commence à respirer en temps normal. Donc c'est par là, je sens que toutes mes choses, tout ce que j'ai, mes soucis, quoi, ça commence en rythme, donc ça doit être en rythme, quoi. Et puis, l'inspiration, des fois, ça vient, comme moi, l'inspiration, ça peut venir. Toute personne que j'aime m'inspire. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu dois toujours exprimer de bonnes intentions, de belles attitudes. Tu vois, tout ça, ça compte dans notre vie. Tu vois, mm-hmm. moi, des fois, quand je suis là comme ça, j'aime cet art de réfléchir, de beaucoup réfléchir. Des fois, je peux rester là comme ça, je ne parle pas. Je ne parle pas, mais je travaille, je parle avec moi-même, je vis dans moi-même.
Qu'est-ce que vous avez dit, Robert Bong, quand vous avez composé la chanson Yaka Yaka?
Yaka yaka en lingala, cela veut dire viens, viens. C'est un gars qui a eu un coup de foudre pour une femme.
Oh, ça c'est beau. On écoute cette chanson qui se trouve sur votre maxi single. Yaka yaka, c'est Robert Bang.
Robert, le titre de ton maxi single est une sorte d'affirmation, de revendication. Pour toi, en quoi la musique ou l'art de manière plus large peut-elle constituer une arme ? Pourquoi la musique est-elle une arme en fait ?
Quand je parle de mon art et mon arme, c'est pas une arme à feu. Mm-hmm. Parce que la musique, c'est une arme spirituelle. C'est... La musique, d'abord, c'est la thérapie. C'est le médicament qui détend les esprits. Parce que nous tous, on est des artistes, mais il y a, entre des artistes, il y a, ce qui nous différencie, c'est la vision. Parce que moi, je fais plus la musique d'écoute. Quand tu es là, tu te mets là, tu es en train de penser à ton boulot, à ta famille, bon, tu peux écouter une belle musique. Il y en a d'autres qui, nous tous, on fait de la bonne musique, mais il y en a d'autres qui font la musique qui est plus pour faire danser. Tu vois ?
Et en quoi la musique t'aide, en fait, dans la vie ? Vu que c'est une arme, visiblement, c'est comme une aide, qui, ça te permet de te protéger de quelque chose ou c'est...
Comme moi, Robert Bang, ici en Suisse, je suis requérant d'asile. Mm-hmm. Je suis requérant d'asile. Être requérant d'asile, il y en a d'autres qui attendent requérant d'asile, tout. Chacun de personnes pense ce qu'il veut penser, dit ce qu'il veut dire. Mais être requérant d'asile, c'est difficile. Mm-hmm. Mais moi, dans tout ça, au lieu d'être déprimé, chaque fois on me voit peut-être boire, d'être bourré et tout, machin, mais je comprenais que je ne peux pas faire des choses contre moi-même. Parce que je peux faire d'autres choses, c'est à moi qui aura le malheur. Alors j'ai compris que j'ai de l'art, la musique, la guitare, qu'est-ce qu'il faut? Donc je dois travailler. Je prenais tout mon temps. Ceux qui me connaissent me voient souvent dans des parcs. Tout le temps, je trimballe avec ma guitare. Donc cela veut dire que n'importe quel temps, l'espace, dès que je trouve un espace que je paie, je prends directement ma guitare. Peut-être il y a quelque chose qui peut venir dans ma tête, qui peut me perturber, mais quand je suis avec ma guitare à ces moments-là, je sens que mon esprit, ça travaille. Ouais. Ça me pousse à approfondir ma concentration. Et puis c'est par là que j'ai découvert tant de choses, la diversité des choses. J'ai compris que quand je joue la guitare, ça me fait plaisir. Et puis, ça fait aussi plaisir aux autres personnes qui sont aux entours de moi. J'ai compris que non, c'est une arme. Parce que la musique, ça change les idées. Donc, sans la musique, on est malheureux, quoi.
Tu penses, Robert, que c'est aussi le cas d'autres formes d'art ? On peut aussi les concevoir comme une arme, selon ta définition ? Ou c'est vraiment spécifique à la musique ?
Non. Je dis... Tout le métier est égaux par ailleurs. Tu vois? Qu'est-ce que, quand je parle, mon art et mon arme, qu'est-ce que tu as comme arme dans ta vie? Tu vois? Il y en a d'autres. Quand je parle d'une arme, c'est l'arme, c'est la passion. Mm-hmm. Tu vois? Parce que quand tu es passionné de quelque chose, tu aimerais bien passer plus de temps à faire ce qui est ta passion. Mm-hmm. Cela veut dire que c'est par là que tu t'exprimes. Tes émotions, tes peines, c'est là où tu cherches ta paix, quoi. Parce que la passion, quand tu fais quelque chose comme une passion, donc cela veut dire que tu te sacrifies à tout, même si tu ne gagnes pas financièrement, mais tu vas te donner à fond, c'est parce que c'est toi.
Et ça t'enrichit, ça te rend plus fort, donc c'est pour ça que ça t'aide.
Oui, parce que si l'esprit est bien, le corps aussi sera bien. Tu peux être bien dans les corps, mais quand tu es mal dans toi, tu es malheureux. Tu es souffrant des jours et des jours.
Très bien, je vous propose de conclure avec ton dernier morceau, le dernier morceau du maxi single, Où es-tu ma belle, qu'on peut écouter.
Le troisième, et oui, le troisième et dernier titre de ce maxi single. Où es-tu ma belle, c'est de vous, Robert Bong. Merci beaucoup de nous avoir apporté cela.
Merci.
Où es-tu ma belle, c'est de votre plume, Robert Bong, c'est sur votre dernier maxi single. Ségolène, encore une info hein, par rapport à une date.
Et donc, à savoir que Robert Bong se produira en live en mai prochain au festival Arqué à Bussigny. Donc, c'est dans un restaurant-café qui s'appelle Au Raisin. Donc, allez-y vite y courir, applaudir Robert en live.
Cette date, rappelez-la nous, le.
Donc c'est en mai. Robert, est-ce que vous avez la date exacte?
Oui, c'est un festival que je vais jouer 3 jours.
Ouais.
Donc le 24, non, 25, 26, 27.
25, 26, 27 mai de cette année à Bussigny. Merci beaucoup Robert Bong, merci d'être passé ce soir.
C'est à moi de vous remercier.
On a bien senti votre passion ce soir et ça fait plaisir d'avoir de la passion comme ça sur les ondes de Radio Django. On rappelle que vous venez de sortir ce maxi-single, hein, Mon art et mon arme.
Mon arme.
Avec des morceaux qui sont déjà disponibles et qu'on peut retrouver sur les principales plateformes de téléchargement. On vous encourage donc à y faire un tour. Et même si c'est pas forcément pour acheter, c'est en tout cas pour écouter parce que ça fait du bien. Vous l'avez découvert ce soir, une très belle.
C'est la thérapie.
C'est la thérapie. La thérapie, Robert Bong. Merci beaucoup. Une belle carrière à vous et à bientôt pour la
merci.
Suite. Merci beaucoup,
merci.
Robert
merci
Bong.
Alors, je peux profiter juste pour remercier des personnes, mon équipe qui sont derrière moi, qui me soutient. Merci, merci, merci. Et tous les Lausannois, je vous aime. Et mes frères africains, le migrant. Tenez-nous fort, mais dans la main, que la paix règne dans nos cœurs. On est ensemble, je vous aime.
C'est une belle conclusion, merci Robert Bong. Une découverte ce soir avec vos propos, vos explications et vos chansons à réécouter et à partager, bien sûr, si le cœur vous en dit, sur notre site www.django.fm. Et puis, Ségolène vous a mis tous les liens nécessaires pour en savoir plus sur notre invité de ce soir, Robert Bong. Une belle soirée à vous, merci Ségolène.
Merci Fabien.
Merci.
Le Grand Direct s'est terminé pour ce mardi. On vous a parlé de comment protéger ses données sur les réseaux sociaux, de l'accès aux études pour les migrants et de l'art musical avec le dernier maxi-single de Robert Bong qui était à découvrir ce soir en exclusivité pour vous sur Radio Django et Radio La Fabrique. Tous ces sujets sont comme chaque semaine à retrouver en intégralité sur notre site www.django.fm. J'en profite également pour vous renvoyer sur notre page Facebook Radio Django et puis partager les sujets, ça nous fait toujours plaisir. Et ça fait toujours des vues, des likes, et ça fait connaître, c'est le plus important pour nos invités, mais également pour nous et pour vous. Merci beaucoup à Jonas qui a assuré la technique ce soir avec brio, merci également à Claudia, Anouche, Voix d'Exil, et puis Ségolène, et puis toute l'équipe de Radio Django qui est dans l'ombre, et puis un petit clin d'œil aussi à La Fabrique qui nous rediffuse chaque mardi soir en direct. La semaine prochaine, nous vous donnons rendez-vous avec Julien Mage, il est metteur en scène et auteur, nous parlerons de son parcours, et puis ce sera le premier mardi du mois d'avril, donc ça rime avec pause syndicale, bravo, vous suivez. La pause syndicale qui sera d'ailleurs sur un sujet un petit peu sensible. Hein. Il s'agit de la fermeture de foyers pour mineurs non accompagnés. On en parle la semaine prochaine avec Claudia et Valérie et puis toutes les branches régionales des syndicats. Rendez-vous donc mardi prochain à partir de 18h précise pour un nouveau grand direct à écouter comme chaque semaine sur radio.django.fm et sur La Fabrique en DAB. Je vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de vos programmes respectifs. Il est 19h.
Retrouvez cette chronique en podcast sur django.fm.